nous sommes des rigolos. Dans un village de bargeaux, nous sommes des rebelles. Dans un bordel irréel, nous sommes des guerriers. Dans une armée de fachos. Nous sommes de bons à rien, dans un bistrot de crétins. Nous sommes des rigolos. Dans un village de bargeaux, nous sommes des rebelles. Dans un bordel irréel, nous sommes des guerriers. Dans une armée de fachos.
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. C'est Jeudi Noir qui reprend donc avec Jean Mathias, José Oplatine et moi-même, Michel. Voilà, Sophie est un peu trop occupée ces temps-ci. Vous venez d'entendre un morceau de La Marmite qui s'intitulait Les Bons Ariens. La Marmite, c'est d'après Dixie José qui a choisi le morceau, un groupe relié au fameux, à l'universel et au magnifique René Binamé, que j'espère vous connaissez. Voilà, et ce soir nous allons vous parler dans Jeudi Noir donc d'un livre publié aux éditions Ligne qui s'intitule Les Nouveaux Rouges Bruns. Le racisme qui vient, de Jean-Loup Amsel. Alors Amsel, c'est une espèce de vieux marxiste. Et on va voir, alors c'est Jean-Mathias qui s'occupe de la présentation. Et on va voir. Donc les nouveaux rouges bruns, pour lui, pour aller vite, c'est, si on peut les définir, enfin, si on peut reprendre sa définition, c'est l'association de valeurs de droite avec la défense d'une espèce de gauche du travail. Donc, en gros, droit dans ses bottes, les travailleurs droit dans leurs bottes, qui défendent voilà, des valeurs traditionnellement associées à la droite, et avec une certaine dose d'antisémitisme, c'est important de le souligner, parce que, et de racisme aussi, mais il insiste pas mal là-dessus. Donc, c'est représenté par des gens comme le philosophe Michéa, entre autres. Il me semble que, mais c'est un bon indicateur, peut-être aussi quelqu'un comme. Qui est clairement à droite par rapport à Michéa, comme Soral, etc., etc. Donc c'est un bouquin qui, pour ce que j'en ai lu, est intéressant, mais qui pose aussi pas mal de questions avec lesquelles je suis pas forcément d'ailleurs d'accord sur plein de points. Alors Jean-Mathias, toi, qu'est-ce que tu peux en dire?
D'abord peut-être dire deux mots sur l'auteur, sur Jean-Loup Amsel, qui en fait est un anthropologue à l'origine. Donc c'est un anthropologue reconnu, spécialiste des cultures africaines, qui travaille à l'école des hautes études en sciences sociales. Donc c'est un ponte de la discipline. Comme tu l'as indiqué, il est plutôt en fait de tradition marxisante, on va dire, communiste républicain à vocation universelle, on va dire, hein, si je résume ça comme ça. Donc, c'est une pointure dans sa discipline. Et c'est quelqu'un qui, par contre, depuis déjà pas mal d'années, intervient surtout sous la forme de pamphlets ou de polémiques. C'est-à-dire que le travail de recherche de terrain son œuvre elle est faite, son œuvre d'anthropologue elle est faite. Et en revanche, il intervient régulièrement sur ces questions-là. Alors, tu disais effectivement, tu mentionnais qu'il y avait un certain nombre de points avec lesquels on était en désaccord dans le livre, et ça, je partage tout à fait ça. Si je trouvais intéressant d'en parler aujourd'hui, alors le titre déjà, Nouveau Rouge Brun, et le sous-titre, c'est Le Racisme qui vient. Et alors, moi, ce qui m'a semblé. On va commencer par ce qui est intéressant, puis ensuite on exposera un petit peu la thèse, comment il développe, quelles sont ses cibles, et puis où ça marche plus, soit qu'il y ait des problèmes de fond, soit qu'en fait il aille trop vite. Hein. Bon, c'est un petit livre, c'est un petit bouquin qui fait 115 pages, donc ça se lit en une heure et demie. Et du coup, évidemment, c'est un format qui permet pas forcément d'aller au bout de tous les arguments.
Mmh. Non, mais c'est pas en plus ce qu'ils visent, parce que ils visent, c'est clairement un truc pamphlétaire, c'est une espèce d'intervention. Il y a, pour le coup, il y a pas trop de prétention derrière. Ouais. Il veut juste jeter un pavé dans la mare.
C'est ça.
Et pointer des cibles et voir les liens qu'il y a entre ces cibles.
Alors, ce qui l'intéresse, et ce qui, moi, m'a intéressé pour le coup, c'est le début du livre, et ce qui fait un peu la thèse du bouquin, même si je pense que ça mériterait d'être un peu développé, c'est en fait son approche d'anthropologue sur la question du racisme contemporain. Et sur en fait l'usage pas toujours clair et pas toujours qui saute pas toujours aux yeux quand on fait quand on n'est pas forcément rompu à ces disciplines là, que ce soit l'anthropologie ou l'ethnologie. Mais ce qui m'a paru intéressant, c'est que il cherche, lui, à démonter en anthropologue des arguments qui viennent de l'anthropologie ou de l'ethnologie pour justifier, au fond, la cible qu'il a en tête, c'est un racisme qui repose finalement sur des conceptions identitaires de la culture, hein, sur un culturalisme identitaire, on va dire.
Et sur un culturalisme racialisé.
Racialisé et identitaire, c'est-à-dire le fait que on trouve chez des auteurs, alors, à l'extrême droite, ça c'est le cas depuis longtemps, hein, notamment dans la nouvelle droite de Alain de Benoît, qui a servi un petit peu de matrice finalement à la droite dure en France aujourd'hui, et dont on retrouve effectivement des applications dans le programme du Front National et qui explique aussi en partie les succès du Front National, parce qu'il y a eu un travail théorique important qui a été mené à l'extrême droite sur la question de savoir ce que c'est qu'une culture, sur savoir ce que c'est qu'une identité, alors dans une perspective tantôt nationaliste, tantôt le modèle de la culture européenne qu'on retrouve chez les identitaires notamment, mais il faut pas se cacher derrière son petit doigt. Le travail théorique, il a été fait, on peut être en désaccord avec ça, mais il y a eu un réel travail le Grèce et la Nouvelle Droite, ça démarre en 68, et le Grèce a mobilisé notamment beaucoup de d'études ethnologiques ou anthropologiques, ou en tout cas pseudo-ethnologiques ou pseudo-anthropologiques, et au fond, ce qui intéresse Amsel, c'est de voir comment finalement ces modèles-là, pour penser l'identité et les races à partir de la notion de culture, a finalement fini par envahir complètement le débat public, le débat politique, à l'extrême droite, mais aussi à gauche, et donc d'où évidemment le modèle de Rouge-Brun. Alors, cette idée de Rouge-Brun, évidemment, faut manipuler ça avec beaucoup de prudence, parce que c'est souvent une manière de disqualifier les gens rouges, en fait, hein. C'est très facile, évidemment, de dire, mais en fait, vous êtes un antisémite qui s'ignore parce que vous soutenez pas Israël, ou parce que vous critiquez pas Israël, ou alors vous êtes un raciste qui s'ignore parce que vous êtes sensible à l'héritage du colonialisme en France, Donc ça va vite, hein, ça va vite.
Ouais, c'est une catégorie un peu attrape-tout.
C'est une catégorie un petit peu attrape-tout, mais qui renvoie à une réalité historique, déjà, et qui est pas complètement, à mon avis, dépourvue de sens tel qu'il le présente. Alors, t'as évoqué tout à l'heure Soral, il n'en est pas question dans ce bouquin-là. Lui, ce qui l'intéresse, c'est plutôt les cibles.
Il est en note. Hein.
Il est en note.
Il apparaît souvent en note, accompagné de Dieudonné, autres.
Mais Soral est moins intéressant, ou Dieudonné sont moins intéressants, parce qu'ils sont explicitement rejoints. C'est-à-dire qu'en fait, ils le mettent sur la table, et ils s'en cachent pas, ils revendiquent ça. Et donc il n'y a rien à débusquer de ce côté-là. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, c'est. Alors, la question de savoir dans quel sens ils sont rouges, ça, c'est une autre question. Mais Brun, ça, ils le sont de manière revendiquée. Hein.
Je pense qu'ils le sont. Soral avait milité pour que, justement, en gros, il avait quand même l'idée qu'il fallait que le Front National se tourne un petit peu vers les classes populaires, souvent d'origine immigrée,
en disant que
c'était son programme.
C'est le nouveau vivier. Et le ciment, parce que ça serait l'antisémitisme.
Parce que eux, c'est des classes populaires, eux, c'est des travailleurs, c'est là qu'il faut taper.
Tout à fait.
Donc, c'est peut-être ce côté rouge, mais à la limite, c'est toujours le côté socialiste du national, quoi.
Ouais. Mais bon, à la limite, moi, c'est pas ce qui m'a retenu le plus dans la lecture du bouquin. Ce qui m'a intéressé le plus, c'est quand il parlait d'auteurs qui peuvent être associés de près ou de loin à la tradition libertaire. C'est un petit peu ça qui nous intéresse, nous, dans cette émission. Et il y a notamment Michéa, il en est beaucoup question, et je le trouve assez pertinent sur Michéa, je vais dire pourquoi. Ouais. Et il y a aussi, il parle aussi un petit peu de Frédéric Lordon, alors qu'il lui est pas un libertaire, mais plutôt marxisant, on va dire, mais bon, c'est un marxiste de gauche, hein, quand même.
Un républicain souverainiste.
Ouais, enfin là, il va un peu vite, parce que, voilà, mais il y a des choses à dire sur leur nom et contre leur nom. Et il parle aussi des auteurs d'un mouvement, alors qui pour le coup est un mouvement à l'origine universitaire et dont on a d'ailleurs commenté un certain nombre de livres édités ici. C'est tous les auteurs qui sont regroupés autour du mouvement du MOS, à savoir le mouvement anti-utilitariste dans les sciences sociales, qui insiste beaucoup, voilà, sur des arguments de type ethnologique ou anthropologique pour critiquer le libéralisme économique et le capitalisme en général, et qui est souvent lu, cité et utilisé par des camarades libertaires ou anarchistes qui voient dans ces modèles-là en fait des arguments anthropologiques ou ethnologiques. On présente en fait des sociétés traditionnelles, pour faire vite, qui fonctionnent plutôt sur le don que sur l'échange marchand, qui voilà des modèles pour en fait critiquer le capitalisme et imaginer l'idée d'une société sans classe et supposément sans autorité ou sans État. Et donc bon voilà, il y a beaucoup d'ethnologues. Bon, c'est une tradition française. Il y a l'anthropologue Pierre Clastres notamment qui
ça remonte à Marcel Mauss.
Ça remonte à Mauss lui-même et
qui organisait des coopératives,
absolument, des champs. Socialiste coopératif.
Donc au début du XXe siècle.
Au début du XXe siècle.
Un des fondateurs de l'anthropologie française, ouais. Qui était neveu d'Émile Durkheim, le grand sociologue.
Et donc en fait, ces gens-là sont des gens qui sont lus, commentés, et qui ont des sympathies libertaires déclarées, y compris Michéa, dont on a déjà parlé sur cette antenne, et qui est un commentateur d'Orwell, aussi brillant que du coup discutable, en fait. Et discutable en partie parce qu'il est brillant, parce que sur le fond, il y a des soucis. Donc en fait c'est surtout ça que j'ai trouvé ça intéressant. La thèse en fait d'Amsel et son approche en tant qu'anthropologue de ce qu'il appelle le phénomène rouge-brun nouveau, c'est qu'en fait ce phénomène il repose finalement sur une combinaison de ce qu'il appelle le primitivisme d'une part et d'autre part le populisme. Alors, j'ai essayé de définir le sens qu'il donne à ces termes-là, parce que c'est pareil, c'est des termes qui sont un peu généraux. Mais le primitivisme, c'est une espèce de posture qu'on retrouve très souvent chez certains ethnologues ou chez certains anthropologues, qui consiste en fait à valoriser les sociétés dites traditionnelles ou dites archaïques, sans qu'il y ait de notion morale là-dedans, c'est-à-dire en fait les sociétés prémodernes, on va dire, à valoriser ces sociétés-là et à y voir finalement des espèces de contre-modèles qui permettraient de faire une critique politique des sociétés modernes capitalistes dans lesquelles on vit.
Parce que ce sont des sociétés qui sont souvent sans division technique du travail.
Exactement.
Sans division de classe aussi, et parfois aussi sans organisation politique autoritaire.
Centralisée en tout cas.
Donc ça fait partie des choses, effectivement, des références qui sont souvent mobilisées, par exemple, par David Graeber, l'anthropologue anarchiste américain dont on a souvent parlé.
Qui peut effectivement, par certains égards, tomber sous ce genre de critique-là.
Mais ça a aussi pu donner lieu, le primitivisme, à des, comment dire, aux États-Unis en particulier, à des, comment dire, à des mouvements, comment dire, intellectuels, universitaires, qui en gros nous font comprendre que si on veut vivre mieux, il faut revenir avant l'écriture.
Ça c'est
la frange extrême,
c'est ça,
du mouvement.
Mais alors, ce qui l'intéresse lui, c'est la manière dont ce primitivisme-là, emprunté donc à certains anthropologues ou à une certaine ethnologie, sert finalement de modèle pour définir ce que c'est qu'une identité culturelle. C'est-à-dire qu'on a en fait ce primitivisme, il peut finalement s'appliquer à n'importe quel type de culture du moment qu'on la considère avant ses développements modernes ou avant sa contribution au grand tourbillon capitaliste, moderne, occidental, etc. Ce qui veut dire que le primitivisme, on peut le trouver aussi bien par exemple chez des penseurs de postcoloniaux, d'après lui, c'est-à-dire qui ont tendance à avoir une vision idéalisée de ce qu'aurait pu être une culture africaine originaire qui aurait ensuite été détruite brutalement par le colonialisme et par le capitalisme, ce qui est pas complètement faux, ça, on y reviendra quand même.
À part sur le truc culture africaine originaire.
Et alors tout le problème, c'est-à-dire
que la destruction, elle est là, ensuite l'originaire de la culture, c'est beaucoup plus difficile à établir.
Et toute la question est de savoir effectivement ce qu'on peut appeler culture africaine originaire, s'il y a quelque chose qui existe comme ça, et si c'est vraiment quelque chose de, comment dire, si ça constitue un modèle souhaitable ou pas. Mais il y a cette idée, en fait, cette idée des racines, quoi. Cette idée des racines, les racines sont forcément moins pourries que le tronc derrière. Hein. Donc ça, c'est un peu la posture primitiviste, on va dire.
Alors que l'idée de Racine est peut-être aussi pourrie que, que l'idée de Tron.
Oui, c'est ce qu'il dit d'ailleurs à un moment.
C'est une conception organiciste de la société qu'on retrouve chez les penseurs d'extrême droite depuis depuis le XVIIIe siècle.
Et chez Deleuze, d'après lui.
Ouais, le rhizome, le modèle pomme de terre.
C'est ce qu'il dit. Hein. C'est à voir. Alors ça, c'est le premier pôle, le primitivisme. Alors, il y a un primitivisme d'extrême droite. Hein. Je veux dire, les Gaulois, les Européens, la culture française, les racines chrétiennes. On est typiquement dans une approche primitiviste. C'est-à-dire qu'effectivement, on valorise des origines qui sont censées être plus pures que ce qui est corrompu aujourd'hui, parce que multiculturalisme, parce que mélange des cultures, parce que parce que capitalisme, parce que individualisation, etc. Donc, il y a un primitivisme d'extrême droite, mais ce qui l'intéresse lui, c'est le primitivisme d'extrême gauche qui se fait jour et qu'on trouve, hein, voilà, aussi, j'ai cité les penseurs postcoloniaux parce qu'il en parle, mais c'est pas les seuls, hein, le primitivisme, il y a aussi un primitivisme libertaire, hein. L'idée de retrouver des communautés de vie originaires qui seraient dégagées justement des contraintes liées à la modernité capitaliste, économiste, étatique, etc.
Le comité invisible ?
Je l'ai pas dit, il en parle pas.
Bon, tu l'as pas dit.
Je l'ai pas dit, il en parle pas, mais c'est typiquement dans ces formes de néo-anarchisme, si je veux dire, dont on parle souvent. On peut, effectivement, enfin, c'est une catégorie qui marche assez bien. En tout cas, pour certains aspects. Pas pour tout, mais pour certains aspects. Alors ça, c'est le premier pôle. Et le deuxième pôle, c'est, la traduction politique, finalement, de ça, plus direct. Ce qu'il appelle, lui, le populisme. Alors, sur ce terme, c'est évidemment pareil. Le populisme, ça veut tout dire et rien dire, parce que dès qu'on se méfie un peu de la démocratie ou des mouvements sociaux, on invoque le populisme, ce peuple qui sait pas gouverner, qui sait pas réfléchir, émotif, etc. Donc, mais c'est pas le sens qu'il lui donne, c'est pas ce sens caricatural là qu'il lui donne. Ce qu'il appelle le populisme, alors ça, pour le coup, c'est une cible qu'il a très en vue chez Michéa, c'est l'idée finalement qu'il y aurait dans un peuple, largement fantasmé en fait, parce qu'il s'agit plus de classe, hein, de classe sociale, c'est plus général que ça, c'est les catégories populaires, comme on dit aujourd'hui. Il y aurait dans les catégories populaires des espèces de réflexes moraux, on va dire, ou de comportements moraux primitifs, qui permettraient en fait de chercher des ressources pour critiquer ces élites corrompues, cet État corrompu, ces politiciens corrompus, et voilà.
Alors, Michéa prend ça chez Orwell. C'est la common decency, la morale ordinaire.
Commune.
Donc effectivement, Michel, on fait des caisses là-dessus pour justement appuyer sur une espèce de valeur de droite. Le peuple droit dans ses bottes qui critique, qui voit mal le petit qui regarde comme un ennemi le petit délinquant.
C'est l'idée qu'il y aurait des traditions populaires.
C'est ça.
Traditions populaires auxquelles la gauche devrait rester fidèle. Et que c'est une approche traditionnaliste, finalement, des classes populaires.
Le pauvre digne.
Le pauvre digne, effectivement, qui a sa moralité.
Enfin,
Mais typiquement chez Michéa, ça prend la forme d'une apologie du football des années 50, où il y avait des supporters des quartiers populaires qui pouvaient remplir les stades, et où les valeurs qui étaient prisées chez les joueurs et sur le terrain étaient celles de l'homme du peuple, à savoir solidarité, entraide.
Et parce que le joueur lui-même était un local et pas un mercenaire du mercato.
Exactement. Alors Michéa en fait évidemment des caisses là-dessus, il vend beaucoup là-dessus, il a beaucoup de brio là-dessus, et l'analyse n'est pas illégitime en elle-même. C'est-à-dire que parler de culture populaire, il y a des sociologues qui font ça en permanence.
Ouais,
On l'a fait sur cette antenne,
avec
bien
Daniel
évidemment.
Et Chéri-Bibi.
Exactement. Mais cette idée de populisme renvoie souvent, et notamment chez Michéa d'après Hamsel, à une forme d'aveuglement. C'est-à-dire que ça revient à faire du peuple une espèce d'entité un petit peu idéale, comme si tout le monde pensait de la même manière, comme s'il n'y avait pas d'immoralité, ou même y compris d'opportunisme politique, ou même de tendance franchement réactionnaire.
De plutophilie éhontée,
d'amour de l'argent, absolument. Enfin, le risque, en fait, ce que pointe Hamsel, c'est en fait la fusion des deux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, effectivement, on a une attitude primitiviste qui tend à valoriser les racines culturelles, et où, effectivement, on a aussi une approche idéalisée d'un peuple, par exemple le peuple français, puisqu'on est en France, la conjonction des deux fait des étincelles. Parce que, évidemment, dans ce cas-là, on en appelle, effectivement, à des racines populaires de la France, aussi vagues
que
floues. Et à partir de ça, la question est de savoir sur qui on tape. Hein.
Oui, c'est toujours pareil. Quand on se réunit, c'est contre qui?
Voilà. Et donc, alors, il y a la version évidemment omniprésente sur les médias, qui est celle de Marine Le Pen, qui d'une certaine manière est assez fidèle à cette description-là, je trouve. C'est-à-dire effectivement les petites gens moraux qui travaillent, qui suivent les règles, qui payent leurs impôts. Et puis voilà. Et comme ils l'ont fait depuis nos ancêtres les Gaulois. Hein, si je fais vite, voilà. Et donc avec leur moralité, avec leurs valeurs. Et puis effectivement ceux qui viennent brouiller le code génétique, quoi. Voilà, brouiller le code génétique. D'un point de vue culturel, bien évidemment, on parle le racisme biologique est des plus défendu par grand monde aujourd'hui, il y en a encore.
Sauf qu'il est au fond de la plupart de ses discours.
Il est au fond de la plupart de ses discours, mais l'argumentaire est un argumentaire
détaché
sur la culture.
Tout à fait.
Hein, il s'agit, et alors ça c'est le côté franco-français, mais on le trouve bien évidemment aussi dans les théories du choc des civilisations à la Huntington, qui détermine une bonne
partie...
Un théoricien néoconservateur du Pentagone, qui après le 11 septembre a déterminé la politique américaine pendant près de 10 ans. Alors aujourd'hui, ils mettent un peu le pied sur le frein, mais il n'empêche que c'est lui qui a structuré et tout le débat, toutes les questions, par exemple, c'est la question du monde musulman aujourd'hui qui représenterait une menace sur la civilisation occidentale, qu'elle soit d'ailleurs chrétienne ou laïque et républicaine, reprend finalement cette idée qu'il y aurait des blocs de civilisation, des racines de civilisation, des racines culturelles. Hein. Et si effectivement vous rajoutez une petite pincée de nostalgie populaire là-dessus, eh bien effectivement vous avez un mélange explosif qu'il faut bien appeler effectivement rouge-brun. Hein. Et Michéa effectivement est une assez bonne illustration de ça. Alors, ça c'est le versant polémique de la chose. Bon, on va peut-être faire une petite pause, mais juste indiquer que ça paraît intéressant aussi, bon, pour ceux qui s'intéressent un peu à l'ethnologie ou à l'anthropologie, parce que Amsel fait remonter en fait ce type d'approche-là, notamment sur la question du primitivisme. C'est un peu étonnant, un peu paradoxal à première vue, mais il fait remonter ça finalement à Lévi-Strauss, qui est le premier finalement à avoir défendu l'idée qu'il fallait conserver les cultures indigènes pour elles-mêmes, comme si on avait affaire à des espèces d'ensembles clos, en quelque sorte, qui avaient... C'est une approche écologique, au fond, des cultures, hein, c'est dit tel quel chez Lévi-Strauss, et il a défendu à l'UNESCO des programmes dans ce sens-là, et on peut avoir de la sympathie, d'ailleurs, pour l'approche. Mais Amsel dit, attention, et je pense qu'il a raison de le faire, si on défend une vision comme ça de défense des cultures indigènes, on transforme finalement les cultures humaines comme une espèce de grand parc humain, hein, qu'il faudrait conserver à l'identique, comme si ces cultures n'avaient pas d'histoire, n'avait pas évolué, ne s'était pas transformé, et on fige finalement des cultures qui du coup deviennent largement mythologiques. Hein. Et on s'interdit après, en plus quand on est mauvais ethnologue, de comprendre comment ça marche.
On a quelque pas du zoo humain.
On n'est pas très loin du zoo humain, effectivement. Du zoo humain, c'est un zoo culturel. Hein. Mais il identifie la racine de ça chez Lévi-Strauss, et je trouve ça assez intéressant de ce point de vue-là. Ça, c'est pour le... Voilà. Donc cette présentation un peu rapide de sa thèse principale, qui est présentée d'un point de vue d'anthropologue, et je pense que c'est l'intérêt essentiel.
Take all grand time.
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. C'est Jeudi Noir qui se poursuit pour cette deuxième partie. Nous vous parlions donc d'un livre de Jean-Loup Hamsel, Les Nouveaux Rouges Bruns, Le Racisme qui vient, qui a été publié aux éditions Ligne en 2013 ou en 2014, je ne sais plus trop. Et Jean-Mathias nous présentait donc la thèse forte du livre en introduction, donc durant la première partie. Et alors maintenant, on va peut-être rentrer dans les cibles.
Les cibles.
On en a déjà évoqué une.
Claude
Michéa.
Mais peut-être les cibles politiques déjà, c'est-à-dire les points d'application de ce qu'il appelle donc les nouveaux rouges bruns, donc une nouvelle manière finalement de se positionner politiquement sur la question de la culture populaire et de la culture nationale, et effectivement de lier une forme de ce qu'il appelle de primitivisme, comme je disais, et de populisme. Alors, au fond, il me semble, le terme n'apparaît pas tel quel chez lui, mais il me semble que les outils qu'il donne, alors c'est ce qu'il aurait dû faire en fait, moi je pense, voilà, c'est le livre qu'il aurait dû faire, qu'il n'a pas fait, parce que du coup après il va vite un petit peu et puis il est sur un format réduit, mais le livre qu'il aurait dû faire, ça consistait à pousser en fait cette analyse-là, des aspects primitivistes et populistes du racisme contemporain, pour essayer d'étudier la manière dont finalement tous les discours qui résonnaient jusqu'à présent ou qui analysaient la politique en termes de lutte de classe sociale ont été remplacés par des discours qui ont tendance de plus en plus à opposer des identités sociales. Hein. Et ça, c'est alors, bon, on n'est pas le premier à le dire et c'est rien d'original, hein, mais c'est un fait qui est assez massif, c'est-à-dire que on parle de communautarisme, c'est-à-dire que la société française, par exemple, serait composée de différentes communautés, alors soit religieuses, soit ethniques, soit évidemment le grand absent, mais en fait il est là tout le temps, c'est la communauté nationale. Voilà, et évidemment on a tendance comme ça à fractionner des communautés comme s'il existait des espèces de petits blocs comme ça, alors le bloc black pour le coup
et pas le black bloc,
voilà, le bloc, la communauté musulmane, la communauté juive, la communauté des petits blancs, voilà, on peut matiner ça, voilà, de quartiers populaires, tous les livres de sociologues ou de géographes, là, soi-disant de gauche, là, qui marquent les fractures urbaines entre les grandes banlieues et les centres-villes. Donc, il y a des communautés comme ça. Il n'y a plus de classe sociale nulle part. Par contre, il y a des communautés, et les communautés, elles se définissent par rapport à une identité. Une identité religieuse ou une identité ethnique, et c'est là qu'intervient, effectivement, l'idée de culture complètement réductrice.
Ça pose plein de problèmes sur nos thèses.
Bien sûr que ça pose plein de problèmes.
Parce qu'on peut se demander si ces communautés existent, tout simplement.
Ah ben, on peut même y répondre.
Ah ouais, non.
Voilà, la réponse est non.
Il y a des musulmans, il y a des noirs, mais des communautés.
Exactement.
Ça répond à rien.
Et alors, il faut voir, parce que t'as des degrés d'organisation, d'homogénéité, on peut discuter, mais c'est plus une question de sociologie plutôt qu'une question politique. Hein, c'est surtout ça le point. Et en même temps, je trouve que son analyse permet de comprendre ce qui cimente en quelque sorte l'argumentaire qui cimente ce type d'approche. À partir du moment où on pense qu'il existe des cultures comme ça, qui sont des espèces de blocs fermés, cohérents, que ces cultures renvoient à des racines, qui sont des racines, alors ethnico-culturelles.
Ça fait beaucoup de présupposés.
Oui, ça en fait beaucoup, mais ça marche.
Ouais.
Mais ça marche. Hein. Et à partir du moment où, effectivement, on oriente un discours comme celui-là contre les élites cosmopolites, corrompues, déterritorialisées...
Juives.
Je l'ai pas dit, mais évidemment...
Parce que là, on est dans un discours antisémite, là.
Et bien entendu, c'est ce qui sous-tend sa critique des rouges bruns. C'est comme ça. Alors, c'est le point fort de son discours. Et il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Parce qu'il va vite sur beaucoup d'autres choses, mais là-dessus, c'est évidemment... Si on prend Soral ou si on prend Dieudonné, alors là, c'est comme le milieu de la figure, bien évidemment.
C'est très, très gros.
Mais on peut le trouver ailleurs. Parce qu'effectivement, il y a un antisémitisme, d'obédience musulmane traditionnaliste. Il y a un antisémitisme d'obédience nationale, populaire, traditionnaliste.
Le bon vieil antisémitisme chrétien aussi.
Le bon vieil antisémitisme chrétien, voilà. Alors il y a les chrétiens, à chaque fois j'oublie cette communauté-là. Bon, alors, t'as raison, faut pas les oublier.
Ah non, parce qu'en plus c'est un vieil antisémitisme, il est bien installé, tout ça, le peuple décide, machin, tout ça. Bon.
Mais je trouve que voilà, la question effectivement, qui est quand même, comment ça se fait effectivement qu'en l'espace de 30 ans, on va dire, 20-30 ans, important. Hein. Le discours qui est sur la question des luttes de classe sociale, qui structurait tout le débat politique, qui structurait tout l'échiquier politique, alors avec aussi ses caricatures, hein, voilà, une classe sociale, c'est pas forcément plus homogène qu'une communauté, etc. Mais ça renvoie à des réalités sociales précises en même temps. Oui. Voilà. Et puis ça renvoie aussi.
Qu'on peut quantifier,
et puis ça peut renvoyer à des mesures de redistribution des richesses précises aussi. Oui. Voilà. Hein. Donc ceci expliquant peut-être cela. Mais comment se fait-il qu'effectivement, l'espace de 30 ans, tout ce discours-là a complètement disparu au profit effectivement d'un discours sur les communautés? Et alors là, effectivement, ce discours sur les communautés, il est plus porté seulement par l'extrême droite, qu'il l'a toujours fait.
Hein. Oui, parce que c'est son fonds de commerce.
Parce que c'est son fonds de commerce, mais il faut bien reconnaître qu'il est aussi porté par l'extrême gauche et par des gens qui se disent d'extrême gauche. Alors, qui disent pas forcément que des conneries, mais qui en disent aussi. Et donc je pense que c'est important. L'intérêt de son analyse, c'est effectivement de pointer ça. Alors il pense, évidemment, lui ce qu'il a en tête, c'est les versions les plus caricaturales, type les indigènes de la République. Alors, les indigènes de la République, la formule est magnifique par rapport à sa thèse. Les indigènes de la République, ça suppose l'idée de l'existence d'un espèce de corps homogène, alors identifié par son origine ethnique ou géographique, et qui en quelque sorte se maintient à l'identique dans un territoire qui lui est essentiellement hostile.
Ça pourrait renvoyer aussi au code de l'indigénat.
Au code de l'indigénat, bien entendu.
Mais ça, c'est juridique.
Ça, c'est juridique.
C'est-à-dire l'existence d'une sous-classe de citoyens qu'on y a formalisé dans la loi.
Et c'est un projet qui, pour le coup, est complètement colonial.
Oui.
Mais alors, évidemment, il y a une espèce de...
De retournement du stigmate.
Retournement du stigmate, une espèce de retournement polémique qui est censé, effectivement, mettre le doigt où ça fait mal, etc. Mais on peut se poser la question de savoir... Il faut être très prudent, me semble-t-il, quand on fait ça, de savoir comment on le dit. Hein, comment on le dit. Parce que la question de savoir si on retourne le stigmate ou si on confirme le modèle initial.
Oui, si on confirme la stigmatisation.
Voilà. À partir du moment où, effectivement, on crée une communauté de blancs, par exemple, les blancs, ça existe. Moi, j'avoue que je suis un peu perplexe. Quoi. Enfin, moi, je suis pas blanc, quoi. Voilà, jusqu'à une bonne ordre. J'ai aucune envie de l'être, d'une certaine manière.
Non, t'as les joues un peu rouges, d'ailleurs.
Oui, voilà. Mais je suis pas blanc. Je suis plein d'autres choses. Voilà, ou je suis pas blanc à temps complet. Voilà, si on précise.
Ça fait partie des problèmes que je trouve que soulève la thèse. Par exemple, dans la rue, pour les flics, t'es blanc.
Oui, mais un flic, c'est un flic. Je veux dire, moi, je sais comment me comporter par rapport à un flic. Si tu veux, je suis pas seulement blanc. Je suis aussi quadragénaire, a priori habillé de manière conforme, sur des horaires qui sont pas suspects. Donc, il y a aussi toute une forme une sorte de caractéristiques sociales qui entrent en jeu et qui sont décisives, quoi. Est-ce que la question de savoir si je suis blanc ou si je le suis pas vis-à-vis des flics, bien évidemment, mais qu'on parle d'un racisme policier, évidemment, quand on veut, bien entendu. Mais il me semble que ça pose une vraie question, en fait, cette espèce de mobilisation politique qui mobilise sur une identité supposée ethnico-populaire, on va dire. Hein.
C'est-à-dire qu'elle pose question, quelle que soit la couleur éventuellement qu'on met à la base.
Exactement.
Non. Il n'y a pas de symétrie pour José, qui nous parle du studio.
Qui nous parle du studio. Non, il n'y a pas de symétrie, mais...
Y en a qui sont du mauvais côté du bâton, et en France, ils sont plus souvent foncés que blancs. Ça reste une réalité. Du côté du bâton à des tas de niveaux.
Un blanc pauvre qui parle dans une banlieue. Il en prend plein la gueule. Enfin, je veux dire.
Il en prend plein la gueule, mais en même temps, nous là où on bosse, il y a moins de blancs pauvres que d'autres. Comment dire. Enfin, après, c'est pas forcément à généraliser sur l'ensemble du territoire français, mais moi, ça faisait partie des problèmes. Je suis d'accord avec Amsel quand il dit, en gros, le point de vue idéal, ce serait il y a pas de couleur. Là-dessus,
il a une approche post-racial, on va dire, républicaine classique, quoi.
C'est ça, post-racial. Et autant sur le point d'arrivée, je suis d'accord, parce que c'est clair que c'est l'idéal. Ouais. Parce que c'est vrai que les catégories blanc, noir, ce qu'on veut, elles renvoient, c'est pas des termes descriptifs. Parce qu'il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc, il y a des roses, il y a des plus ou moins foncés, enfin bon. Mais elles renvoient des catégories politiques. Après, il n'y a pas de
problème.
Ensuite, tu vois, le truc, ce qui me manque à mon sens, c'est ce que Bourdieu appelait une réelle politique de l'universel. Ouais. C'est-à-dire, il passe directement à l'universel. Genre, il n'y a plus de couleur.
Oui.
Et ça, oui, oui.
Mais le souci.
Mais ce qui manque, c'est tout le chemin qui reste à faire entre la position qui est la nôtre. C'est-à-dire, en gros, dans notre société, ça change quelque chose de s'appeler Diallo, ça change quelque chose de s'appeler Durand, et ça change quelque chose d'avoir une peau d'une couleur différente, indépendamment même d'un discours politique qui va peut-être renforcer.
D'accord.
Les effets de ces différences. Alors,
qu'est-ce que ça change exactement? Et est-ce qu'on est prêt à dire aussi que ça change quelque chose de s'appeler Cohen ou d'être musulman ou d'être catholique?
Ça change quelque chose, je crois. J'ai tendance à penser que ça change quelque chose. Et je dis pas que c'est forcément bien, mais c'est un fait.
Ouais. Bon.
Non, t'es pas d'accord?
Je suis plus perbe. Évidemment que ça change. Je joue au couillon là, bien évidemment. Ouais. Je joue au couillon. Mais la question, c'est de savoir si tu construis
quel discours politique là-dessus.
Qu'est-ce que tu construis comme discours politique là-dessus? Voilà, c'est ça. C'est, toute la question, elle est là.
D'accord.
C'est-à-dire que la question, c'est si tu. Alors, parce qu'à ce moment-là, je veux dire, c'est raison de le dire. Ça joue dans les deux sens.
Oui.
Si effectivement il y a une communauté musulmane en France, alors il peut y avoir des gens qui se mobilisent contre la communauté musulmane. S'il y a une communauté juive de France, et alors là-dessus, il peut pas en discuter parce que. Voilà.
En même temps, tu vois,
de France, ça a du sens de se demander si effectivement il n'y a pas une politique juive en France ou une politique musulmane en France.
En même temps, tu vois, Jean-Mathias, avant qu'il y ait une communauté ou avant que certains commentateurs inventent une communauté musulmane en France, il y avait des ratonnades.
Oui, mais c'est du racisme, ça.
Ouais.
C'est du racisme. J'ai envie de dire qu'il n'y a pas besoin de justification ethnico.
Alors, qu'est-ce qu'elle change, les justifications?
La justification ethnico, elle essentialise les choses, c'est-à-dire qu'elle les fixe, elle leur donne des arguments, elle justifie. Elle justifie l'existence de communautés qui seraient, qui existeraient essentiellement, pour lesquelles, elle rend difficile ou en tout cas problématique la notion de métissage. Ouais. Elle rend difficile ou problématique la notion d'histoire et de transformation de culture, d'échange interculturel. Mmh. Je parle pas multiculturel. Lui, alors, c'est une formule intéressante aussi. Il dit par exemple, on trouve aussi ça. Alors pas simplement chez des gens qui revendiquent une identité communautaire, mais on le trouve aussi chez des gens qui au contraire, se font les défenseurs du multiculturalisme. Et en fait, le multiculturalisme aujourd'hui, c'est assez largement une espèce de pluriethnicité, en fait. C'est qu'effectivement, on a et c'est là où on retrouve le modèle de Lévi-Strauss, que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que très souvent.
Le multiculturalisme, c'est une sottise dans la mesure où on suppose finalement qu'il y a des cultures pures qui se mélangent.
Exactement.
Alors qu'en fait, historiquement, il n'y a aucune culture pure.
Voilà.
Chaque culture
est
le résultat d'un mélange d'anciennes cultures qui ont été plus ou moins effacées, etc.
Et donc, un marqueur culturel n'est jamais suffisant pour définir une identité, quelle qu'elle soit.
Non.
Voilà.
De toute façon, après, définir une identité, c'est pas forcément une bonne chose.
Non, mais politiquement, en même temps.
Politiquement, on n'y échappe pas.
Oui, en même temps, bon, c'est compliqué cette affaire-là, parce que définir des identités de classe, ça peut avoir une utilité aussi, je veux dire. Mais des identités construites sur ce type de critères-là, sur ce type de critères culturels construits, alors c'est pas n'importe quel type de critères culturels, c'est des cultures, des critères culturels qui sont construits sur une origine. Ethnique idéalisée, le primitivisme, et sur effectivement une opposition en gros entre le bas et le haut, voilà, un peuple qui serait spontanément et essentiellement bon, opposé à des élites nécessairement corrompues. Voilà. Et bon. Alors là où je suis, maintenant que j'ai défendu, parler franchement, je suis complètement d'accord que il va très très vite sur beaucoup de choses. Alors par exemple sur l'antisémitisme, il y a des choses sur lesquelles je suis absolument en désaccord. Il se paye une fois de plus pour la énième fois et sans aucun argument l'antisémitisme supposé de Chomsky ou de Bricmont. Bon, ça commence
ça,
à bien faire, ça commence à être fatigant parce que si tu veux, c'était quand il y a pas pire sourd que celui qui veut pas lire, voilà, si je peux dire. Donc là, il y a des choses, c'est des raccourcis balancés en notes ou pour les le coup, c'est de la polémique gratos. Sur la question du judaïsme et du rapport à Israël, c'est des questions qui deviennent, à mon sens, de plus en plus compliquées quand même. De plus en plus compliquées, dans la mesure où les porte-paroles autoproclamées et assez largement suivies par une bonne partie des membres de la communauté juive sont...
c'est discutable ça.
Mais en attendant, t'entends pas beaucoup de contre-voix, si tu veux. Alors il y a évidemment tous les camarades de l'UJFP.
Qui sont quand même assez virulents.
Ah qui sont virulents, mais qui sont pas nombreux. C'est le moins qu'on puisse dire. Hein, ça,
non, ils sont pas nombreux à s'exprimer. En même temps, t'as tous ceux qui ont pas forcément accès à la parole publique qui sont
absolument.
Mais ils sont complètement des juifs complètement opposés à la politique d'Israël. J'en connais un paquet.
Mais bien évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est clair, c'est qu'une organisation comme le CRIF en France, conseil représentatif entre guillemets des institutions juives de France, le CRIF lui a une vision qui est effectivement finalement pas si éloignée de la vision Alors Rouge Brune, là pour le coup, ouais. On est sur le paradoxe. Le
JPF, on n'a pas précisé. C'est l'Union juive pour la paix. Vous avez un site internet qui est vachement bien.
Remarquable.
Vous trouvez des textes qui sont de grande qualité.
Bon, on salue le camarade de Pierre Stambul au passage.
Et des textes assez souvent assez informés et politiquement que. Je trouve ça assez nickel.
Il y a pas grand chose à redire, hein, ça c'est clair. Mais là-dessus, par exemple, il passe très vite. C'est-à-dire que la manière dont effectivement le rôle, par exemple, d'une institution en France comme le CRIF ces dernières années, pour justement faire triompher ce modèle qui dénonce là de communauté ou de culture qui serait essentialisée, qui serait des blocs homogènes, et potentiellement du coup en conflit, ça mériterait à mon avis un peu plus que les trois pages qui lui consacrent vite fait en dénonçant tous ceux qui font de l'antisémitisme, en condamnant Israël. Alors lui-même ne soutient pas la politique d'Israël, c'est pas du tout ce qu'il fait, on va pas l'accuser, on va pas faire les mêmes erreurs que lui, donc c'est pas ce qu'il dit, mais là-dessus c'est clair qu'il va beaucoup trop vite. De même qu'il va trop vite, je suis d'accord, on peut le dire aussi, sur la question coloniale et sur la question de l'héritage du racisme colonial et de son activité aujourd'hui, parce que c'est une question qui se pose. Mais c'est aussi, et c'est quand même un des mérites de ce bouquin-là, de mettre le doigt, sur un certain nombre de problèmes qui existent, plutôt de notre côté de l'échiquier politique, si je peux dire. Donc, alors, j'ai parlé, effectivement, les indigènes de la République, c'est caricatural, mais évidemment, alors, il parle aussi la défunte Tribuca, évidemment, donc, avec, des identitaires, les identitaires blacks, etc. Mais d'une certaine manière, on peut pas lui reprocher, si tu veux, d'associer des démarches qui, en fait, sont assez convergentes
on va en discuter après une pause musicale. Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. Vous écoutez Jeudi Noir pour cette dernière partie. Et nous discutons toujours véhémentement du livre de Jean-Loup Hamzel, Les Nouveaux Rouges Bruns, le racisme qui vient. Voilà, soit dit en passant, par exemple, j'aime pas Michéa, mais le maître Rouge Brun, Ah si, bah alors là, moi ouais, par rapport aux définitions que donne Hamzel, ok.
Non, mais attends,
en même
Michéa,
temps, Brun c'est nazi. Hein. Michéa, oui. C'est un nazi.
Ah bah, Michéa, il collabore très régulièrement à Causeur.
Causeur, ah.
Causeur, avec ouais, des interviews d'accord. De 15 pages. S'il te faut d'autres éléments, je te les donnerai, mais.
Ok, ok. Non, mais nazi, ça me semblait quand même un peu violent pour Michéa, mais ouais. Causeur, ça pue un peu davantage. Non,
non, non, on a un champion du confusionnisme, là.
Ah, d'accord, confusionnisme. Ouais.
Notamment chez nous, là, du côté libertaire, là. Je pense que faut le signaler quand même. Ouais. Hein. Il est plus souvent sur Causeur que sur Radio Libertaire, quand même. Hein.
Ok. Voilà. Ouais. Causeur, Elisabeth Lévy
soutient Israël.
C'est la version
pro-Israël du Front National. Voilà.
D'accord. Alors qu'est-ce que tu voulais, sur quoi tu voulais aller sur le...
Alors, on va peut-être réagir par rapport. Oui. On avait une conversation un peu hors antenne là, oui. avec à la suite de remarques de José. Je pense que là-dessus, effectivement, on peut pas passer ça sous silence. Et il va évidemment beaucoup trop vite là-dessus. C'est la question, effectivement.
Ah oui, excuse-moi, Jean-Mathias, je t'interromps. Vous venez d'entendre Cop Shoot Cop. Un titre Heads I Win, Tail You Lose. Donc voilà, face je gagne et face et pile tu perds.
Et pile tu perds. Pas mal. Ouais, donc c'était la remarque que faisait José. Il a raison. On parlait alors parce que évidemment on a parlé des indigènes de la République, la tribu K, des gens qui se revendiquent effectivement de la critique du colonialisme aujourd'hui. Et qui
la tribu K, c'était clair, c'était des antisémites furieux.
Mais entre autres. Donc on a parlé effectivement de cas un petit peu caricaturaux. C'est un peu le travers aussi, c'est qu'évidemment il se prend des cibles un peu faciles pour être efficace, quoi, pour aller vite. Bon, après il y a évidemment la question qui est quand même massive. C'est alors si on parlait, il en parle pas là, mais si on parle par exemple effectivement des mouvements pour les droits des homosexuels, par exemple, là on a c'est pareil. D'une certaine manière, on pourrait l'accuser. Quoi qu'en même temps, on n'a pas affaire à une identité culturelle, oui, ethnico-primitiviste, oui, ou populaire dans ce cas-là, oui, mais on a une espèce de communauté tactique, on va dire, hein, qui est faite, oui, pour revendiquer des droits, et force est de constater que si la
pas
communauté...
Pas seulement pour revendiquer des droits, pour exercer et, aussi, et pour les exercer.
Et pour les exercer, tout à fait, et pour les faire impliquer.
Là, si on est gay et qu'on va draguer dans un bar normal, on peut se faire casser la gueule. Donc bon, on va dans un bar gay, on forme une communauté gay.
Et donc on pourrait, mais c'est pour ça que, comment dire, alors évidemment dans un cas comme ça, évidemment ça justifie tactiquement, et après la question c'est évidemment jusqu'à quel point
on adhère
soi-même à cette idée qu'il existe une communauté essentialisée qui pourrait pas, bon voilà, donc ça c'est puis dans quelle mesure cette communauté peut occulter aussi les questions de pouvoir, les questions sociales bien réelles, je veux dire, voilà, la communauté gay, je veux dire, quand on est un gay cadre supérieur de centre-ville, hop, on y va, pas forcément la même chose. Est-ce qu'on est
effectivement, oui, que si on est un gay charcutier à Maubeuge.
Charcutier à Maubeuge, voilà. Donc on va éviter. Mais évidemment, il s'agit pas de nier le caractère tactique, hein, que peut avoir une communauté par rapport à l'État, notamment dans une lutte de reconnaissance ou ce genre de choses. Ça, c'est tout à fait clair. Mais il me semble que, alors, en fait, ce qui vise est plus précis que ça. C'est-à-dire que c'est pas la constitution d'une minorité agissante, en fait, dotée d'une visibilité, on va dire, publique, qui vise. C'est un certain type d'approche là-dessus qui insiste effectivement sur le caractère primitif et ethnologiquement fondé en quelque sorte de la communauté, culturellement fondé de la communauté, et sur l'idée qu'au fond il y aurait une espèce de bonté ou de justice innée de ceux d'en bas ou de la France d'en bas par rapport à ceux d'en haut, d'une certaine manière. Et la combinaison des deux, effectivement, je trouve, est assez bien vue.
Oui, c'est comme quand il cite un truc là, des indigènes de la République, du genre les descendants des colonisés ne peuvent pas être racistes parce qu'ils sont victimes du racisme.
Absolument.
Ce qui est une sottise hallucinante. Par exemple, l'antisémitisme est une... Alors, c'est pas forcément une espèce d'invasion non plus d'antisémitisme, une raz-de-marée antisémite, mais malgré tout, l'antisémitisme présent.
Ben évidemment.
Chez les anciens colonisés.
Sachant que la définition des anciens colonisés est
sujet à caution.
Sujet à caution, parce que les anciens colonisés, les colonisateurs n'ont pas tous été blancs. Oui. L'histoire du colonialisme, elle est longue, riche, diverse et instructive. Donc c'est une question aussi qui est importante. Ouais. Hein. Donc voilà. Donc en fait, il me semble que c'est important de voir effectivement quelle est la cible. C'est pas une critique du communautarisme. qui nous propose là. Hein. Mmh. C'est une critique d'une certaine forme, effectivement, de communautarisme, qui est effectivement, il me semble, politiquement la plus efficace et la plus dominante aujourd'hui. Au fond, quand on critique le communautarisme, ça veut tout dire et rien dire aujourd'hui. Hein. On le met à toutes les sauces, etc. Mais
ça peut être le critiquer pour fantasmer sur l'ancienne unité nationale,
bien entendu,
par exemple.
Bien entendu, l'ancienne unité nationale ou républicaine, mais au fond, ça
n'a jamais existé.
Au fond, il n'y a pas grand-chose derrière ça. Mais le fait d'insister sur le caractère, voilà, sur le type d'un, les arguments ethnologiques ou soi-disant anthropologiques qui sont avancés me semble assez bien vu. Et alors, il y a un point peut-être aussi sur lequel je voulais revenir, c'est, je l'avais évoqué dans l'introduction, c'est la manière dont, par exemple, il critique l'utilisation qui est faite, par exemple, chez Michéa, mais aussi chez d'autres camarades libertaires. Donc, c'est peut-être intéressant aussi de parler de ça un petit peu avant la fin. C'est le type de recherche développé, par exemple, dans le MOS, dont je parlais tout à l'heure. Alors, et qu'on a nous-mêmes commenté sur cette antenne, avec les livres ils éditent les livres de Graeber, ils éditent effectivement un certain nombre d'auteurs tout à fait intéressants. Le mouvement anti-utilitariste dans les sciences sociales, alors c'est un mouvement qui a déjà une trentaine d'années en France, c'est un groupe des universitaires, des chercheurs en sciences sociales, et qui cherche à développer une critique du libéralisme économique. En s'appuyant finalement sur des cas anthropologiques ou sur des cas ethnologiques, c'est-à-dire sur des sociétés supposées en quelque sorte antérieures à l'espèce de généralisation du modèle capitaliste en réalité. Donc il y a plein de choses tout à fait passionnantes là-dedans. Graeber est édité par Le Mos, hein, je l'ai dit. Et en même temps, alors le modèle qui est qui est opposé en fait à l'intérêt capitaliste et puis aux relations sociales basées sur sur l'intérêt et sur des rapports marchands, c'est en fait le modèle du don. Le modèle du don, alors qui remonte pour le coup à Marcel Mauss, donc a donné son nom, il y a un jeu de mots évidemment là-dessus. Marcel Mauss qui est un des fondateurs de l'anthropologie française. Plutôt marqué, alors lui politiquement, du côté d'un socialisme coopératif national. On est au début du XXe siècle. Là.
Oui, donc le socialisme, ça ne veut pas du tout dire ce que ça veut dire aujourd'hui.
Non, mais il a aussi contributions intéressantes sur le socialisme coopératif. Il y a des choses intéressantes là-dedans. Et en fait, l'idée de Mauss, c'est qu'au fond, il y a beaucoup de sociétés qui fonctionnent non pas sur l'intérêt et donc sur des échanges marchands où on contracte en quelque sorte sur la valeur en fonction de l'intérêt bien compris.
Et où l'échange économique est séparé de toutes les autres activités.
C'est ça.
Du type, je donne de l'argent à mon boulanger, il me donne une baguette en échange, mais il n'y a aucun lien supplémentaire.
Et on est quitte. Voilà. Il y a des échanges marchands, uniquement marchands, et en fait, ces échanges sont les plus structurants en même temps, et ces échanges, en fait, correspondent uniquement à un calcul d'intérêt.
Et ça, ce serait chez nous.
Ça, ce serait chez nous, et dans le capitalisme, ce serait le moteur, en quelque sorte, sociologique, on va dire, du capitalisme. Et l'idée de Mauss, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de sociétés qui fonctionnent non pas de cette manière-là, mais sur le modèle du don. Alors, il y a des centaines de pages écrites là-dessus sur l'idée. Des milliers de pages écrites où effectivement, on met en avant telle ou telle ethnie ou tribu africaine qui pratique, alors notamment des milliers de pages sur la pratique du potlatch en anthropologie. Alors le potlatch, c'est quoi en fait? C'est une forme de relation entre des tribus, entre des clans qui repose sur des formes de défis.
Une compétition de cadeaux. Je vais faire le plus beau cadeau.
Et alors, c'est le plus beau cadeau, et en fait, on est prêt à se ruiner, à se ruiner pour des décennies, pour faire une fête somptueuse en l'honneur du clan voisin ou de la tribu voisine.
Enfin, en l'honneur, pour l'humilier.
Pour l'humilier et pour le provoquer à répondre. Voilà, pour le provoquer à répondre. C'est-à-dire qu'on va pas l'acheter, on va pas échanger, mais on va lui offrir tellement de choses que du coup, il est lui-même, tenu, en quelque sorte, de rendre sous forme de contre-don. Et donc, on a là une forme d'économie, en quelque sorte, qui serait non marchande et qui serait, d'après Mauss, beaucoup plus fondamentale que les rapports économiques et que les rapports marchands.
Tu le présentes d'une façon bizarre. Moi, je dirais plutôt que finalement, pour Mauss, les économies du don, c'est des économies où l'échange marchand est au service du lien social.
On peut dire ça aussi.
C'est-à-dire qu'il va toujours être masqué pour favoriser une apparence de lien social amical. C'est-à-dire qu'en gros, c'est des sociétés dans lesquelles il faut avoir l'impression, même si économiquement ça marche pas comme ça en réalité, qu'on est tous entre amis. C'est-à-dire qu'on se donne des trucs et sans compter.
Bah, le lien social prime sur l'intérêt. En fait.
En réalité, c'est des choses qui sont extrêmement formalisées.
Bien sûr.
Et dans lesquelles, en gros, il n'y a pas grand monde qui donne plus qu'il ne reçoit.
Bien entendu.
mais c'est bien fait. Bon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échange monétaire, il n'y a pas d'échange, il n'y a jamais de donnant-donnant.
Voilà. C'est, voilà, c'est ça.
C'est-à-dire que je donne à A, qui donne à B, qui donne à C, qui donne à D, qui donne à E, qui donne à Z, qui me redonne.
Voilà. Alors, et l'exemple classique, c'est par exemple la transposition ou la survivance qu'il y aurait de cela dans, par exemple, les cadeaux de Noël. Mmh. Hein, voilà, bien évidemment. Où les cadeaux de Noël sont toujours calibrés, quantifiés, même si on ne le dit pas, même si on ne dit pas combien ça a coûté, etc. Mais on n'offre évidemment pas n'importe quoi à n'importe qui, et quand on est en fonction de ce qu'on a reçu. Bon. Alors, l'idée, c'est qu'on aurait là, chez les gens du MOS, et aussi chez pas mal de camarades libertaires qui utilisent ces analyses-là, une espèce d'anticipation de la société communiste libertaire future. Hein, c'est-à-dire une espèce de société qui aurait réussi à dépasser en quelque sorte les rapports marchands, les rapports économiques, et qui fonctionnerait avant tout pour construire des liens sociaux et les maintenir. Ça peut être coûteux, hein, encore une fois, mais ça a le mérite en quelque sorte de soumettre en quelque sorte l'économie à la vie sociale. Hein. Et alors ce qui monte là, c'est rapide, mais c'est assez suggestif. Hein. Il y a plusieurs pages, plusieurs références ethnologiques où il montre qu'en fait ce modèle-là est loin lui-même d'être aussi pur que ce qu'il est présenté le plus souvent par les gens du MOS, mais pas seulement, par MOS lui-même en l'occurrence. Et qu'en réalité, on a souvent, c'est un modèle qui tend à occulter très souvent les relations de pouvoir en interne et également entre. Hein, les gens qui sont en relation, ou les clans ou les tribus en relation de ce point de vue-là. Et du coup, ce qui est édifiant, c'est évidemment pour le coup, en fait, sa critique consiste à dire que c'est là encore une forme de primitivisme qui dit pas son nom. C'est-à-dire qu'on a des présentations partielles finalement de relations sociales ou de rapports de pouvoir ou de rapports de force sociaux. Alors, bien sûr, une fois qu'on a dit ça, il ne s'agit pas de dire que du coup, évidemment, en fait, la réalité des rapports sociaux, c'est les libéraux qui l'ont compris, c'est l'échange de marchandises, c'est l'intérêt, etc. Ça marche pas non plus, le libéralisme, on est d'accord. Mais l'idée qu'il y aurait à puiser en quelque sorte une espèce de modèle social pur ou anthropologique pur qu'il y aurait dans ces sociétés pré-modernes est une pure illusion d'après Amsel. Hein. C'est une pure illusion d'après Amsel, et c'est une illusion qui va effectivement qui a des effets politiques. Qui a des effets politiques. Parce qu'effectivement, la critique du capitalisme, la critique, si elle s'appuie là-dessus, elle tombe à plat. Elle tombe à plat. Oui. Et si en plus elle est couplée à des identités culturelles largement fantasmées et problématiques, eh bien ça donne effectivement une forme de racisme populiste, on va dire, qui malheureusement a quand même visiblement de beaux jours devant lui. Donc, même si c'est rapide en conclusion, donc on présentait Les Nouveaux Rouges Bruns de Jean-Louis Amsel, sous-titre Le Racisme qui vient, aux éditions Ligne. Donc c'est un livre qui est sorti l'hiver dernier là. Et excuse-moi.
On rappelle le site.
Le site, oui. Alors bien sûr, l'émission, vous pouvez réécouter l'émission sur le site de l'émission, donc Jeudi Noir à gurdulu.org. Donc toutes les émissions sont archivées. C'est génial.
Soigneusement, voilà. Donc, par les choses.
Voilà, soigneusement par.
Il y a même des plaques cachées si vous cherchez bien.
Ouais, il faut bien chercher. Donc ce soir, c'était Les Nouveaux Rouges Bruns de Jean-Louis Amsel, Le Racisme qui vient. Et voilà, ouais.
Et vous allez entendre Tsunami Bomb Wrapped in Red, donc enroulé de rouge.
Et on se retrouve dans 15 jours
pour de nouvelles aventures.
Salut, bonsoir.